sur son CV, il est écrit qu'il est professeur d'anglais. Mais dans la réalité, c'est plus compliqué que ça. Ouais, c'est pas un choix. Donc il est talmudiste, ça on le savait, et il m'a autorisé avec son aide, hein, il m'a aidé pour essayer de trouver une définition succincte du Talmud, ce qui est pratiquement impossible, mais c'est pas grave. Alors dans cette définition que je vais vous donner, que je vous donne, des analyses de la loi juive en se fondant sur des commentaires de la Torah. Voilà, c'est pour nous aider un peu, nous chrétiens, sur ce deuxième pilier du judaïsme, car je pense qu'il y a deux piliers, la Torah et le Talmud, et le Talmud peut aider énormément d'étudiants juifs à mieux comprendre encore les enseignements de la Torah. Voilà, et bien maintenant je te remercie de ta présence. Mais on sera de toutes les façons très contents de t'écouter. On revient à la bonne époque sans les ordinateurs que nous avons connus. Reprenons nos vieilles habitudes. Voilà. Eh bien, nous t'écoutons. Merci. Merci de ta présence, Gérard.
Merci, Jean-Albert, pour ces quelques mots toujours très, très chaleureux et amicaux. Bon, je suis très heureux d'être ici. Alors, le fait que la technologie ne fonctionne pas, ça tombe assez bien. Puisque le thème de l'année, c'est la crise, donc c'est une espèce d'illustration du thème de l'année, comme quoi on a très très bien choisi, on ne peut pas tomber mieux, c'est assez pertinent finalement comme choix. Voilà. Alors, de façon assez énigmatique, donc de façon talmudique, ou bien de façon talmudique et donc de façon assez énigmatique, j'ai intitulé mon propos de ce soir « La pharmacie de Tarfon ». Alors, je vais épeler certains noms, puisqu'ils n'apparaîtront pas à l'écran. Donc, T-A-R-F-O-N, Tarfon, c'est le nom hébraïsé de Tryphon. Tryphon, qui est un nom grec. Vous en connaissez au moins un, le Tryphon ?
Tournesol.
Voilà, professeur Tournesol, c'est le prénom du professeur Tournesol dans Tintin. Voilà, voilà exactement. Donc, Rabbi Tarfon, alors c'est un maître de la Mishnah, donc le Talmud, en gros le texte de base du Talmud est composé en fait de deux parties. La première partie, c'est la Mishnah, donc, qui est une espèce d'anthologie de lois qui date du 1er et 2e siècle, qui a été mise par écrit au 1er et 2e siècle. Rabbi Tarfon, en gros, il appartenait à la génération qui vivait entre 70 et 135 de notre ère. Voilà, pour le situer un peu. Alors pourquoi la pharmacie de Tarfon ? Mais vous le saurez au cours de cette soirée. Donc le sujet, c'est la crise, hein, c'est le thème de l'année. Dieu sait si l'année 2022 est riche en crise à tous les niveaux, de toutes sortes. Et je suis assez heureux de pouvoir en parler. Et le fait que je puisse parler de la crise, c'est déjà, en tout cas c'est une des hypothèses que je vais émettre ce soir, c'est déjà une sortie de crise. La crise la plus grave qu'on puisse traverser, c'est la crise du langage. La crise la plus grave qu'on puisse traverser, c'est le fait de ne même pas pouvoir parler de la crise. Alors cette idée ne sort pas de mon cerveau malade, elle sort, je l'emprunte en fait à Éric Chauvier. Alors, Éric Chauvier, c'est un anthropologue contemporain. Il est professeur d'anthropologie à l'Université de Bordeaux, responsable de collection aux éditions Anacharsis, qui sont 643 rue de Bayard à Toulouse. Donc, quand vous sortez de Matabio, que vous voulez aller à la place du Capitole à Toulouse, vous redescendez la rue de Bayard et sur votre trottoir de droite, au numéro 43, vous avez les éditions Anacharsis, qui se spécialisent en sciences humaines et notamment en anthropologie. Éric Chauvier, c'est un penseur assez iconoclaste. Ça tombe bien, on n'a pas d'image. Et c'est facile, mais il fallait la faire, voilà, c'est ça. Et donc, je commencerai en fait par la lecture de quelques passages d'un petit ouvrage qui s'appelle « La crise commence ou finit le langage ». Voilà, voici ce qu'écrit Éric Chauville. « Grâce soit rendue à l'évolution pathétique du monde. Ce qui vous accable est désormais identifiable. Vous pouvez enfin être intimidé par un mot qui fait à présent exister quelque chose, une clameur à la fois inconsistante et omniprésente, universelle et ultra-localisée. C'est un mot transculturel qui pénètre votre existence, sans cesser de tournoyer dans l'espace métaphysique. Ce mot évoque un trou noir, une matière évanescente, mais aussi presque la chair, presque votre chair. Ce mot, c'est la crise. Cette épreuve de la crise est l'épreuve de votre vulnérabilité. Elle est disséminée dans tout ce qui nourrit la rhétorique de l'urgence. Mais ce traitement hollywoodien des informations relatives à la crise, n'est rien sans une disposition autodestructrice, la conversation ordinaire. Alors l'idée de, qui est énoncée par Éric Chauvier, à travers cette conversation ordinaire, c'est que justement, la conversation médiatique aujourd'hui, qui est faite dans l'urgence, à coup de petites phrases, on va très vite, on ne prend pas le temps d'expliquer les choses à fond, c'est d'abord une crise du langage. Donc, première solution, la pharmacie de Tarfon, premier remède à la crise, réapprendre à parler un peu moins mal que ce qu'on peut le faire dans les médias. Alors j'avais prévu de vous projeter le portrait de mon maître Raphaël. Alors Raphaël, son nom de famille, je vais vous l'épeler, c'est D-R-A-I-Tréma. Alors je ne le prononce pas à dessein, vous allez voir pourquoi. D-R-A-I-Tréma. Et il racontait souvent une anecdote qui consistait à dire, quand un journaliste arrive pour m'interviewer, il me demande toujours, mais comment se prononce votre nom ? Je suis bien placé pour connaître ces affres de la prononciation du nom de famille. Mais comment ça se prononce votre nom ? Ça se prononce Dray ou ça se prononce Dray ? Et lui disait, ni l'un ni l'autre. Ça se prononce Drahi. Deux syllabes. Donc l'hypothèse que je vais essayer de soutenir ce soir, c'est que le remède majeur que l'on doit, à mon avis, à Rabbi Tarfon plus précisément, et peut-être plus globalement à une certaine logique talmudique, c'est que lorsqu'on a le choix entre deux solutions, il faut choisir toujours la troisième. Avant le GPS, avant la technique, quand on était en montagne et qu'on se perdait, il fallait faire un exercice de triangulation. On se mettait sur une éminence où on pouvait voir le paysage, et on essayait de repérer deux éléments notables dans le paysage qu'on pouvait facilement identifier sur la carte. Ensuite, on sortait la boussole, parce qu'évidemment, on avait la boussole, la règle, le rapporteur, la carte, éventuellement des lunettes pour lire la carte, et même un crayon. On repérait ces deux points dans le paysage, on les identifiait sur la carte, on mesurait l'angle pour situer les points par rapport au nord, on traçait deux lignes, et à l'intersection de ces deux lignes, eh bien c'est le point où on se situait. C'est-à-dire que quand on est perdu, il faut trianguler. Ce qui est une façon géométrique de reformuler l'hypothèse dont j'ai parlé, quand on a le choix entre deux solutions, il faut choisir la troisième. C'est-à-dire que dès lors qu'on a trois points, dès lors qu'on peut trianguler, on peut se sortir d'une mauvaise situation et on peut se sortir d'une crise. Alors, un exemple, on va commencer par le plus compliqué, comme ça après on va pouvoir aller vers le plus facile et se détendre un peu. On va partir d'un passage du traité Yevamot, c'est un des traités du Talmud qui se situe au folio 69a. Et on a une confrontation entre trois rabbins. Il y a d'abord Rabbi Eliezer. Alors Rabbi Eliezer, il pense que le statut d'esclave peut être cumulé, c'est comme les problèmes, voilà, se cumuler, c'est la loi de Murphy, c'est l'idée, c'est toujours la tartine de le matin, qui est la tartine de confiture ou de miel, qui tombe toujours du mauvais côté, c'est la loi de Murphy. Ben, Ravi Eliezer, il pense que la loi de Murphy, ça existe, et qu'on peut cumuler de tard, on peut être esclave, et en plus, on peut être mamzer. Alors le mamzer, c'est souvent à tort, traduit par bâtard. Le mamzer n'est pas un bâtard, c'est bien plus compliqué que ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que pour la loi, pour les lois qui règlent le statut généalogique des personnes dans la loi juive, le mamzer, c'est l'enfant qui est né d'une union interdite, sans rentrer dans les détails. Et donc pour Rabbi Eliezer, on peut être à la fois mamzer et esclave. Alors la particularité, c'est que si on est l'un ou l'autre, ou les deux, on ne peut pas se marier avec qui on veut. Il y a des restrictions très 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 précises qui pèsent sur les unions matrimoniales possibles. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Et puis il y a Rabbi Simlai. Rabbi Simlai, il est un peu plus optimiste, il se dit on va essayer de régler ce problème. Là, on a une crise généalogique, on va essayer de la régler. Alors il se dit, bah, si on a un mamzer, comment on peut lui permettre d'entrer finalement dans le peuple juif, de se marier avec qui il veut. Comment on peut lever les restrictions? Il se dit, ben voilà, on peut dire au mamzer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans cette épicerie-là, puis tu vas voler des produits. Puis après, ben tu vas avoir un procès, tu vas aller au tribunal rabbinique, l'épicier va te faire un procès, et tu vas dire, mais moi, j'ai pas d'argent, moi. Moi, je peux pas payer l'amende. Et donc, puisque tu peux pas payer l'amende, ça sera travail d'intérêt général. Aujourd'hui, ça s'appelle travail d'intérêt général. À l'époque, c'était l'esclavage. Le voleur, qui était insolvable, était obligé de se vendre en tant qu'esclave et donc de travailler pendant un laps de temps pour son maître, c'est-à-dire la personne qui l'avait volé, pour la rembourser, pour payer l'amende. Et selon Rabbi Simlai, le fait qu'il devienne esclave lui permet d'épouser une esclave. Et l'enfant qu'il aura avec cet esclave ne sera pas mamzer. C'est une façon de régler le problème généalogique. Ah non, ce qui est un peu compliqué, c'est que ça passe par une transgression, bon, certes peut-être minimale, de la loi, mais ça veut dire qu'il faut quand même aller commettre un vol, quoi. Ce qui est un petit peu répréhensible. Voilà. Alors, du coup, on a une troisième opinion, là, c'est Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il dit à Rabbi Simla, et tu vois, c'est bien. Ton idée de vouloir régler le problème de la mamzeroute, c'est une très très bonne idée, il faut faire sauter ce problème-là. Seulement, bon, le faire par le vol, ça le tombe pas. Donc en fait, on ne va rien voler du tout. Il suffirait que le mamzer, eh bien, en fait, il se vende volontairement auprès d'un maître. Il se vend volontairement, il devient esclave, se marie avec une esclave, son enfant n'est pas mamzer. Et dit le traité Yevamot, folio 69a, Alaha ke Rabbi Tarfon. La Alaha, la loi, suit l'opinion de Rabbi Tarfon. Donc la sortie de crise, ici, qui est une tare généalogique, elle se fait par l'entremise de la solution qui est apportée par Rabbi Tarfon. Et c'est la troisième solution. Il y a une opinion de Rabbi Tarfon qui apparaît dans le traité Avot. Alors, traité Avot, c'est un traité un peu particulier. C'est un traité, en fait, qui ne comporte que des enseignements de la Mishnah. Il n'y a aucun commentaire dessus. Et c'est un traité qui est souvent présenté comme une sorte de traité de morale, si vous voulez. Et Rabbi Tarfon, il a exprimé un enseignement qui est très connu, qui dit la chose suivante, il ne t'appartient pas de terminer le travail, mais tu n'es pas libre de t'y soustraire. Il ne t'appartient pas de terminer le travail, c'est-à-dire de mener à bien la tâche que tu as entamée, mais tu n'es pas libre de t'y soustraire. Alors si on y regarde d'un peu plus près, ça veut dire qu'en fait son opinion, c'est l'une de trois opinions possibles en fait. Première opinion qui n'est pas exprimée, consisterait à dire bah, tu fais rien, tu ne commences même pas la tâche que tu es censé accomplir. Tu ne fais rien, tu n'agis pas. Deuxième solution, si tu agis, tu vas jusqu'au bout. il faut que tu agisses. Et disons que si tu entames un travail, tu dois le mener à son terme. Et Rabbi Tarfon lui défend une troisième solution, qui est qu'en fait, on n'arrivera jamais à bout d'une crise. Mais la solution, c'est au moins de tenter quelque chose. Position qu'on pourra qualifier de réaliste, si vous voulez. Il n'est pas idéaliste, il sait très bien qu'on n'ira pas jusqu'au bout. Il n'est pas non plus nihiliste ou défaitiste en disant « on ne peut rien faire, donc nous ne faisons rien ». Non, il a un point de vue extrêmement réaliste, disant « on va commencer, on ne finira certes pas, on ne réussira pas, mais ça n'est pas une raison pour ne pas essayer ». Troisième exemple talmudique, cette triangulation qui pourrait figurer une sortie de crise, ça tourne autour d'un concept très très paradoxal qui s'appelle Yisurin Shel Ahava, c'est-à-dire les souffrances, littéralement les souffrances d'amour. C'est-à-dire que, c'est une question qu'on peut se poser, si on est croyant, on peut se poser la question, est-ce que Dieu nous aime? Et si oui, comment sait-on qu'il nous aime? Et la réponse assez paradoxale qui est proposée au traité Barachot, à partir du folio 5a et suivant, c'est de dire, ben en fait, quand on est accablé de souffrance, on sait que Dieu nous aime. C'est ce que le Talmud appelle Yisurin Shel Ahava, souffrance d'amour. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Souffrance d'amour. Alors la Gemara dit, alors la Gemara c'est la partie page du Talmud qui commente l'enseignement de la Mishnah. La Gemara dit en fait, les souffrances d'amour, quand tu les subis, quand tu en souffres, tu dois revenir sur toi, tu dois faire un retour critique sur toi, tu dois essayer de comprendre en quoi tu as fauté. Parce qu'évidemment, ces souffrances, elles ne sortent pas de nulle part, elles sont la conséquence, une sorte de châtiment peut-être, en tout cas, elles sont la conséquence d'une faute que tu as pu accomplir. Et si tu ne trouves rien, eh bien tu dois te dire que finalement tu es accablé de souffrances d'amour parce que tu n'as pas suffisamment étudié la Torah. On reviendra sur ce point. Et puis il y a un petit épisode, alors c'est pas simplement une discussion théorique, hein, il y a deux anecdotes qui sont rapportées. Rabbi Yochanan, qui est un grand rabbin, il était malade, il était malade, sous le coup certainement de souffrances d'amour, il sourit, Inch'Allah. Il reçoit la visite de Rabbi Chia, et Rabbi Chia lui pose une question. Alors, Rabbi Chia aurait pu être psychanalyste. Hein. Rabbi Chia lui dit, ça va, t'aimes bien tes souffrances, là, t'es content de souffrir, là, t'es bien là? En langage freudien, il lui demande si le bénéfice secondaire qu'il tire de ses souffrances, finalement, est suffisant pour lui apporter une sorte de jouissance. Voilà. Et Rabbi Yochanan, il dit « Ah non, non, moi je ne veux ni de mes souffrances, ni de leur récompense. Peut-être qu'on a une récompense parce qu'on souffre sur Terre, mais là, vu l'état dans lequel je suis, les récompenses, là, ça ne m'intéresse même pas. » Et Rabbi Chia lui dit « Ça va sans doute vous rappeler quelque chose. Hein. Il lui dit pas lève-toi et marche, mais quelque chose comme ça. Il lui dit pas talita koum, mais il lui dit donne-moi ta main. Il lui prend la main et Rabbi Yochanan se lève. Quelques jours plus tard, c'est Rabbi Hanina qui est malade. Rabbi Yochanan va le voir. Et la scène, exactement, se répète. Et là, on se dit, mais la Gemara pose la question, mais comment c'est possible? Pourquoi est-ce que le type qui est malade, il n'est pas capable de se lever tout seul, quoi? Il est dans son lit, pourquoi il ne se lève pas? Et la Gemara répond, il n'y a aucun prisonnier qui puisse se sortir lui-même de sa prison. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est que on a l'impression que chaque anecdote met en scène deux personnes. Mais en fait, il y en a trois. En fait, il y a une triangulation. Parce que la personne qui est alitée, qui est malade, à qui l'on demande « Est-ce que tes souffrances te sont chères ?» et qui répond « Non, non. » c'est des doubles. Il y a celle qui souffre, qui est accablée, et puis il y a la personne qui répond à la question qu'on lui adresse et qui se dit, mais en fait, ouais, mais je suis pas obligé de souffrir comme ça, quoi. Je veux pas. Et hop, il est capable de se lever. Donc, par l'efficacité de la parole et du corps, parce que dans chaque anecdote, on a bien le rôle du corps, donne-moi ta main, et hop, on l'aide à se lever. Il y a une triangulation qui s'effectue. Donc, cette sortie de crise, qui n'est pas seulement une affaire de maladie, hein, c'est une affaire beaucoup plus existentielle que ça. C'est quand même, c'est une façon, certes un peu décalée, mais de poser la question, quoi. Est-ce que il arrive à... Est-ce qu'il y a des crises que l'on traverse, parce qu'en fait on y prend goût, quoi. Parce qu'il y a une espèce de jouissance dans la souffrance, quoi. Enfin, c'est quand même une vraie question de fond, quoi. Voilà, un principe de plaisir, un système de vie, un système de mort, etc., etc. Qu'est-ce qui nous anime, quoi. Voilà. Et donc cette espèce de triangulation comme ça, qui fait que hop, d'un coup, le malade se dit mais non, en fait, je veux pas des souffrances, c'est fini tout ça, on arrête. Alors, si j'ai intitulé mon propos « La pharmacie de Tarfon », c'est parce que, en fait, c'est un petit clin d'œil à Jacques Derrida, qui a écrit un commentaire très fameux du Phèdre de Platon, qui s'intitule « La pharmacie de Platon ». Or, il me semble que Derrida met le doigt sur une logique qui doit nous arrêter, qui est ce qu'il appelle la logique du pharmakon. Alors, en grec, on connaît le pharmakos. Le pharmakos, c'est le bouc émissaire. Et le pharmakon, alors c'est un terme qui est très intéressant, qui renvoie au remède. Le pharmakon, c'est ce qui fait partie de la pharmacopée, de la pharmacie. C'est le remède. Sauf que c'est un remède, et Derrida insiste énormément là-dessus, qui fonctionne de manière ambivalente. C'est-à-dire que le pharmakon, c'est le remède et c'est aussi le poison. Alors aujourd'hui, on pourrait illustrer ça de façon classique, hein, par l'idée d'effets secondaires. Tout médicament a des effets secondaires. Il n'y a aucun médicament qui n'ait pas d'effet secondaire. Ça n'existe pas. Une façon de dire qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et, pour trianguler, le sourire de la crinière proverbiale. Ça nous rappelle évidemment éventuellement la crise du Covid, etc., où de façon un peu infantile, certaines personnes réclamaient un vaccin qui n'est pas d'effet secondaire. Mais mon pauvre ami, ça n'existe pas. Toute chose implique son contraire, toute médaille a son revers. Principe de réalité. Et... c'est par ce détour, par la pharmacie de Platon et Derrida et du pharmakon, qu'on va revenir à cette question. Si tu souffres, si tu subis des souffrances d'amour, c'est parce que peut-être tu n'as pas assez étudié la Torah. Ça, c'est la lecture classique. Mais on peut faire une lecture, on peut compliquer cette lecture. On peut dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que finalement, il n'y ait pas de défaut dans l'étude de la Torah? C'est-à-dire que je ne souffre pas parce que je n'ai pas assez étudie la Torah. Je souffre à cause de la Torah. Parce que la Torah elle-même serait un pharmakon. La Torah elle-même serait à la fois le remède et le poison. Alors, c'est une hypothèse complètement exorbitante, et c'est tellement exorbitant que c'est évidemment ce que dit le Talmud à plusieurs endroits. C'est-à-dire que... mais bon, je parle d'une époque là... où on n'avait pas peur de penser, quoi. Le Talmud, c'est ça, quoi. C'est une entreprise où il n'y a pas de tabou, quoi. On va jusqu'au bout de la pensée, quoi. Voilà, ça fait rêver, hein. Bon, ça fait rêver. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le livre des juges, Shoftim, il y a un passage, je vous donne le passage, c'est le chapitre 12, du verset 4 au verset 6. Il y a une guerre entre deux tribus d'Israël, il y a entre Galaad et puis Ephraïm. Et il y a un truc assez rigolo, c'est que Galaad et Ephraïm, ils ne parlent pas exactement le même dialecte. Pour dire un épi de blé, il y en a qui disent shibolet, et les autres ils disent sibolet. C'est un peu ciboulette, oui. Donc shibolet, sibolet. Et donc, ils font la guerre, Et le mot shibboleth devient un signe de reconnaissance. Donc, il faut imaginer, c'est la nuit, les gardes protègent le camp, et il y a un mot de passe. Et donc, arrive un type, il dit, quel est le mot de passe ? Shibboleth, c'est bon, tu peux entrer. Et si c'est un Ephraïmite qui arrive, lui, il connaît le mot de passe, mais le pauvre, il ne le prononce pas de la même manière. Il va dire Shibboleth. Et l'autre, il sait très bien que c'est un ennemi, il va le trucider sur place. Voilà, alors, vous voyez, on pourrait dire que l'épi de blé, c'est un pharma, quoi. Ça donne la vie ou la mort, quoi, selon la manière dont vous le prononcez. Mais ça, c'est un peu anecdotique. On retrouve ça dans le traité Yoma du Talmud, au folio 72b. Traité Yoma, la Gemara commente un verset de la Torah, un verset du Deutéronome. C'est le chapitre 4, verset 44, c'est facile à se rappeler. 4, 4, 4. Où le verset dit « Voici la Torah que Moïse a placée devant les enfants d'Israël. Zot ha Torah asher sam Moshe lifnei bnei Israël. » Zot à Torah, Asher Sam Moshe. Sam, il l'a placé. Alors, bon, vous ne voyez pas malheureusement, mais Asher Sam, Sam, ça s'écrit avec la lettre Shin. Une espèce de chandelier à trois branches, si vous voulez. Et la Gemara, comme d'habitude, se pose une question sur le verset. Pourquoi cette formule ? Pourquoi on dit « Voici la Torah que Moïse a placée, a mise devant les enfants d'Israël ?» Pourquoi on ne dit pas « révélée » Pourquoi on ne dit pas « donnée » Pourquoi ce verbe, « Sam » Et la Gemara répond « Mais parce que « Sam », tu peux l'écrire autrement. Tu peux l'écrire non pas avec un « Shin », mais avec un « Samer ». C'est une lettre un peu ronde, arrondie, quoi. Et « Sam », ça veut dire, avec un « Samer », ça veut dire... Ça veut dire drogue, ça veut dire médicament ou ça veut dire élixir. Bref, si on le traduit en grec de Platon, Sam, c'est le pharmakon. C'est-à-dire que la Torah, c'est Sam, c'est un élixir, une drogue, un médicament qui peut te donner la vie ou qui peut te tuer. Sam chaim, Sam mita ou Sam mavet. Il y a deux versions différentes dans le Talmud. Élixir de vie ou élixir de mort. C'est quand même exorbitant comme lecture. Et c'est... Voilà. Donc on est en train de dire, mais en fait, il n'y a pas de chose, et ça c'est peut-être déjà une façon de sortir de la crise, de dire les choses et de penser les choses comme ça. Il n'y a pas quelque chose qui soit bon ou mauvais en soi. Le bon ou le mauvais en soi, ça n'existe pas. Quelque chose existe qui a un effet bénéfique et ou un effet maléfique, ça dépend du contexte, ça dépend des gens, ça dépend des moments. Mais vous ne pouvez pas dire, ah ben tiens, voilà, ça c'est bon ou ça c'est mal. Ça c'est un remède. Ça, c'est un poison. Non. Toute chose est ambivalente. Alors, j'adore ce passage du traité Yoma, parce que ça, c'est quand même, ce genre de développement, c'est quand même une vaste entreprise de démolition d'une certaine morale. Et ça, c'est peut-être aussi une façon de sortir d'une crise morale, c'est-à-dire d'une crise qui est créée par une morale délétère qui croirait en l'opposition binaire, étanche entre le bien et le mal. Eh bien, dit la Gemara, ça c'est un fantasme, c'est une vue de l'esprit, mais ça ne se passe pas comme ça. Même la Torah est un élixir de vie ou de mort, ça dépend. Quoi. Bon. Et donc, le Shabbat matin, quand on sort la Torah à la synagogue, ça c'est dans un autre traité, c'est le traité Ta'anit, folio 7a, où la Gemara va citer « Qui les cartov natati lachem » c'est quelque chose qu'on chante à chaque fois qu'on sort la Torah. Qui l'écartov natati lachem. Alors c'est déjà compliqué à traduire. C'est presque une expression paradoxale. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dirais. Qui l'écartov natati lachem. C'est bizarre, non? L'écart et Natati.
On va en parler après.
C'est, Natati, je vous ai donné, voilà. Bon, en gros, c'est, si je traduis comme ça, c'est... et je vous ai fait un beau cadeau. Voilà, je vous ai fait un beau cadeau. Alors, un beau cadeau, sauf que... Bon, Natati, je vous l'ai donné, je vous l'ai offert, d'accord, mais l'écart, bon... l'écart, c'est oui, c'est le cadeau, mais enfin, c'est aussi ce qu'on a acheté, quoi. Alors, tu l'as donné ou tu l'as vendu, quoi. C'est gratuit ou il faut payer. C'est le statut, quand même, de la Torah, hein, quand même très, très ambigu, quoi. Et là aussi, la Gemara enclenche une réflexion sur... De la même manière que le fait traiter Yoma, la Gemara enclenche cette réflexion et dit, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Torah, c'est un cadeau ou c'est pas un cadeau, quoi. C'est la vie ou c'est la mort, quoi. Ça dépend. Et allez, voilà. Et,
pour moi, c'est une blague. C'est carrément une blague. Attends. Voilà. Non, c'est juste pour dire que pour moi, c'est une blague. C'est une blague juive. C'est écrit dans un texte saint. Dit exactement comme ça. Tu dis que ça peut être une chose bonne, une chose mauvaise, et on doit regarder, bien chercher. Ça parle toujours de l'intelligence de l'être humain. On parle que de ça, en fait.
Moi, j'aime bien cette idée de blague, parce que je ne peux pas... Enfin, moi, je trouve que faire des lectures ironiques, faire relever l'ironie, c'est toujours important, quoi. C'est toujours quelque chose d'essentiel, quoi. Voilà. Alors ça... Et donc, quand le verset dit... Ah ben je vous ai fait un beau cadeau là, il faut l'entendre de manière ironique aussi. Tiens, je vous ai bien eu là. Vous vous rendez compte, ah ouais, il est beau le cadeau, alors là vous êtes bien embarqué avec ça, quoi. Ouais, il y a de ça bien sûr. Ah ouais, ouais.
Moi j'ai. Soi-disant le texte le plus sain, et dedans, il y a une blague.
Voilà, exactement. Voilà, exactement, c'est ça. Alors voilà. Et alors, on va y revenir par un autre biais, effectivement. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. Cette logique du. C'est le pharmacon, hein, c'est apprendre. Voilà, c'est à la fois il y a au pied de la lettre, et hop, second degré, quoi. Voilà. Pour le dire autrement, en neurosciences cognitives, aujourd'hui, on dirait que, en fait, ce que décrit Platon sous le terme de pharmacon, ou que ce que décrit le Talmud sous le terme de Sam, Sam Chaim, Sam Mita, c'est en fait. Ce qu'on pourrait appeler un phénomène ambigu bistable. Alors, c'est là, pour le coup, on va perdre quelque chose parce que je devais vous projeter des images qui auraient illustré ça. Bon, en gros, ces images, ce sont ce qu'on appelle des illusions d'optique. Vous en avez toutes et tous vues. Vous savez, ces représentations, souvent en noir et blanc, on ne sait pas si on doit voir deux visages ou bien s'il y a une coupe, un vase au milieu. Le visage d'une jeune fille ou bien d'une vieille dame, etc. Enfin voilà, ça, ce sont des phénomènes ambigus bistables. Alors j'ai pas d'image. Alors du coup, bah, je vais essayer de trouver un autre exemple. Dans le langage, en syntaxe, il y a des syntaxes qui illustrent ce phénomène d'ambiguïté bistable. Si je dis par exemple la peur du gendarme. Bon. La peur du gendarme, vous ne savez pas si c'est un génitif subjectif ou objectif. C'est-à-dire, est-ce qu'on a peur du gendarme ou est-ce que le gendarme qui a peur? Vous voyez? Si je dis la peur du gendarme est toujours très efficace, bon, alors là, je sais que c'est un génitif objectif. Mais si je dis la peur du gendarme est contagieuse pour ses collègues, alors je sais que c'est lui qui a peur, c'est un génitif subjectif. Donc, il y a moyen de désambiguiser, de supprimer l'ambiguïté. Mais ce qui est fondamental dans un phénomène ambigu, bistable, c'est qu'en fait, on peut stabiliser l'ambiguïté d'une manière ou d'une autre, mais on est incapable, le cerveau est incapable, de considérer les deux sens en même temps. On ne sait pas faire. Voilà, on ne sait pas faire. Donc, vous voyez, on revient encore à cette idée-là, c'est-à-dire que il y a un sens possible, un deuxième sens possible, mais en fait, les deux sens sont présents en même temps. Donc, il y a deux sens, mais il y a bien trois solutions. 2 égale 3. C'est l'arithmétique paradoxale des phénomènes d'ambiguïté bistable. Voilà. Et ça, on peut l'appliquer à plein de niveaux, à plein de phénomènes différents. J'en prends un comme ça. La question du... c'est un sujet que j'ai traité ailleurs, et, voilà, la question du tatouage dans la loi juive. Le tatouage est-il autorisé ou interdit? Alors certains vont dire bah, c'est autorisé, d'autres vont dire c'est interdit. Ok, c'est la vieille histoire, la vieille rengaine, quoi. C'est autorisé ou c'est interdit, quoi.
Ça dépend de qui est ta mère.
Bon, vas-y, développe. Tu veux pas expliquer?
Allez, explique.
Non, la mère juive, ça dépend si ta mère t'autorise ou pas.
Ouais, voilà.
C'est pour ça que... Mais Gérard, je dois partir pour une urgence.
Ok.
C'était vraiment très intéressant, je te remercie énormément.
Mais on... Les travaux. Quoi le tout? Donc, est-ce autorisé ou interdit? Vous voyez, encore une fois, bon, logique binaire. On est dans la crise. On a une crise du langage ici. On a une crise de la loi. On ne sait pas quoi faire. Est-ce que je peux me faire tatouer ou pas? Est-ce que c'est licite ou illicite? C'est une forme de crise dont il faut sortir. Et la mauvaise manière de sortir de la crise, c'est-à-dire, en fait, une façon de ne pas en sortir, c'est de dire « c'est autorisé » ou c'est interdit. Quel que soit, quand on pose la question dans ces termes-là, on est obligé d'apporter une mauvaise réponse. C'est-à-dire que, je reviens à ce que disait Éric Chauvier, la crise, c'est d'abord une crise du langage. C'est-à-dire, vu le format de la question, la réponse sera forcément à côté de la plaque. Vu le format de la question, le format même de la question empêche qu'on puisse apporter une bonne réponse.
C'est une question un peu fermée.
Question fermée. En réalité, c'est ce que j'essaye de faire et d'expliquer sempiternellement dans les cours de Talmud, c'est-à-dire, en réalité, la vraie question, c'est quand quelque chose est interdit, qu'est-ce qui est autorisé dans l'interdit? Et quand quelque chose est autorisé, qu'est-ce qui est interdit dans ce qui est autorisé? Parce que dire que c'est interdit, et donc c'est interdit, ou dire que c'est autorisé parce que c'est autorisé, c'est pas du Talmud, c'est à la portée de n'importe quel abruti, quoi. C'est la définition de la bêtise, en fait. C'est la définition de la bêtise. La seule sortie possible, c'est de savoir ce qui est interdit dans l'autorisé, ce qui est autorisé dans l'interdit. Alors, par exemple, sur le tatouage, ce qui est interdit, en fait, dire si vous aimez votre mère à la folie, vous pouvez vous faire tatouer un cœur, par exemple. Si vous écrivez maman je t'aime, ça c'est interdit. Parce que ce qui est interdit, c'est de tatouer deux lettres. À partir de deux lettres, c'est interdit. Si vous tatouez une seule lettre, par exemple, pourquoi pas? Ou un dessin. C'est pas une lettre, un dessin. Ok? Alors il y a pire, hein, bien sûr, pas développé, mais enfin il y a pire, c'est-à-dire qu'il est interdit de se faire tatouer par exemple deux lettres, mais une fois que vous l'avez fait, il n'est pas interdit de porter le tatouage. Donc vous n'êtes pas obligé de l'effacer. Vous pouvez le garder. Vous avez transgressé parce qu'il ne fallait pas vous faire tatouer, mais il n'est pas interdit de le porter. Et pire, pour certains tatouages, vous pouvez le porter, il serait même interdit de l'effacer. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Donc vous voyez que tout ça est un tout petit peu plus complexe, quoi. Donc le tatouage, c'est même pas un phénomène ambigu bistable, c'est un phénomène ambigu multistable. Il y a plus de deux et il y a plus de trois façons de le stabiliser. Bon, je suis obligé de passer parce que là je peux pas vous projeter les images. Et donc, comment sortir de la crise? Si on suit cette logique à plus tard fin, la sortie de crise se fait par le dépassement du « deux », le dépassement du duel, le dépassement du binaire. Alors, mes propos ne sont pas enregistrés, donc on peut parler librement. Ça s'applique évidemment, par exemple, pour ne pas prendre un exemple polémique, à la question du genre, masculin, féminin. Crise du genre, on se dit, comment on s'en sort? Ben, on s'en sort par le au-delà du deux, quoi. Dire que ouais, il y a plus de deux genres, ouais. Et alors, je peux pas développer parce que c'est pas le sujet. On serait là à 4 heures du matin, mais il y a des tout un tas d'appuis dans le Talmud pour démontrer qu'il y a évidemment plus de deux genres, évidemment. Je parlais tout à l'heure de psychanalyse. On entend parfois des psychanalystes qui défendent, qui se font finalement les promoteurs ou les défenseurs d'un certain ordre moral, qu'ils appellent l'ordre symbolique. On va défendre l'ordre symbolique, parce qu'évidemment, les psychanalystes sont prudents et roublards, et ils ne vont pas vous dire qu'ils défendent l'ordre moral. Donc ils vont dire on défend l'ordre symbolique. D'accord ? Mais tu n'as pas lu Freud, en fait, parce que Freud, il est beaucoup plus subtil que ça, quoi. Freud, il n'est pas du tout persuadé qu'il y ait deux genres, point barre, quoi. C'est beaucoup plus compliqué et intéressant que ça, quoi. Voilà. Donc, en fait, la crise, elle est suscitée, en fait. La crise, c'est aussi une façon de créer des faux problèmes. Et on crée des faux problèmes comment ? En restant dans le duel et le binaire. Donc, le duel, c'est, voilà, le duel, c'est la forme principielle de la crise. C'est ce qui crée la crise et c'est ce qui empêche la sortie de crise. Et dès lors qu'on dépasse le duel, on a des chances de s'en sortir. Alors, quelle serait l'image, si j'avais une image qui pourrait symboliser à la fois ce qu'on a dit sur l'élixir de vie, l'élixir de mort, sur le pharmacon, etc. Je dirais l'œuf dur. Vous prenez un œuf dur, vous voyez, c'est dur, ça résiste, c'est la crise. Mais si vous coupez l'œuf dur, vous vous apercevez que dedans, il y a du jaune. Dans le blanc, il y avait du jaune, en fait. C'est pas tout uniforme. Donc, dans l'autorisé, il y a de l'interdit. Dans l'interdit, il y a de l'autorisé. Dans le jaune, il y a du blanc. Dans le blanc, il y a du jaune. Tout ça est... Oui, c'est très jésuitique. Oui, c'est très jésuitique. Oui, après, ouais, je fais pareil avec mes étudiants. Hein. Je leur dis faites gaffe parce que je parle, mais je vois tout, j'entends tout. Hein. Faites gaffe. Même au dernier rang, quoi. Même ceux qui sont planqués contre l'ordinateur, j'entends tout. Quoi. Ça les terrifie, mais. Ouais, je sais.
Et il y a la coquille en plus.
Et voilà. Donc, bon. Donc, l'œuf dur, c'est pas une mauvaise façon de venir illustrer cette logique-là. Quoi. Vous croyez que c'est tout homogène, tout uniforme, et puis une fois qu'on tranche dedans. Il faut bien trancher les crises, hein, le nœud des crises, il faut bien les trancher, mais pas n'importe comment, il faut bien trancher. Les circonciseurs en savent quelque chose. Et on découvre que dans le blanc, il y a du jaune, quoi. Ah ouais, incroyable. Donc le modèle, si vous voulez, ce que j'appellerais agonistique, hein, agon, c'est par exemple, c'est l'opposition, c'est le combat, c'est la, les échecs, si vous jouez aux dames ou aux échecs, ou à la bataille, voilà, au football, ce sont des jeux agonistiques. Il y a un camp contre l'autre. Et ça, c'est le pire modèle qu'on puisse utiliser pour tenter de sortir des crises. Quoi. Il faudrait, vous voyez, quand on nous dit, il faudrait le langage. Il faudrait lutter contre le chômage, lutter contre le réchauffement climatique, lutter contre. Mais c'est de la bêtise pure. C'est de la bêtise pure. Pourquoi ? Absolument vouloir appliquer ce modèle agonistique aux problèmes auxquels nous faisons face. Et le dire comme ça, c'est déjà un problème. On ne fait pas face à un problème, on est toujours dans le problème, comme le jaune est dans le blanc. Nous sommes toujours déjà embarqués. Bon. Donc, sortons de ce modèle agonistique. Et ça, évidemment, c'est éminemment le cas dans le Talmud, je veux dire. Si vous prenez, évidemment, les bonnes vieilles guéguerres entre Beit Hillel et Beit Shammai, parce qu'en général, c'est la... bon, je vais parler de l'œuf, mais en même temps, on va parler de la tarte à la crème. Ça, c'est la tarte à la crème, voilà. Ah, mais il y a toujours Beit Shammai qui est contre Beit Hillel, et voilà. Et voilà le modèle agonistique. Bêtise pure. Les deux opinions, Beit Hillel, Beit Shammai, les deux opinions existent dans le Talmud. Sont exprimés dans le Talmud, sont explicités dans le Talmud. Donc les deux opinions qui semblent contraires coexistent. Il n'y en a pas une qui va supprimer l'autre. Il faut penser les deux en même temps. Donne un exemple. Première Mishnah du traité Kiddushin, folio 2A. Il y a trois manières de se fiancer à une femme. L'une des trois manières, c'est de lui offrir de l'argent. Alors, Beth Shammah, ils disent, ah, il faut au moins un dinar. Et puis Beth Hillel, ils disent, il faut une prouta. Alors une prouta, c'est rien du tout. Hein. Ça vaut rien, quoi. C'est une pièce de cuivre. C'est la plus petite unité monétaire qui avait cours à l'époque. Ça vaut rien du tout. La loi suit, comme presque toujours, mais le presque est important, la loi suit Beth Hillel. Donc on donne une somme minimale, on peut se fiancer à quelqu'un. On peut dire, donc voilà, la loi suit Beth Hillel, donc la loi ne suit pas Beth Shammah, donc on est dans ce modèle agonistique. Voilà, vous voyez que ça fonctionne comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Parce que le fait que la loi suive Beth Hillel n'implique pas que l'opinion de Beth Shammah soit fausse. Elle reste là. Tout ce que ça signifie, c'est qu'au plan de la loi pratique, on suit Beth Hillel. Mais au plan de la loi théorique, du système juridique de la halakha, les deux coexistent. Et on peut très bien imaginer que dans une situation particulière, on suive l'opinion de Beth Shammah et pas l'opinion de Beth Hillel. Un exemple, un homme richissime veut se fiancer avec une femme. Lui, on va l'obliger à donner un dinar, pas une prouta. Parce que s'il donnait la somme minimale, on dirait, mais tu te fous de qui, là ? Tu as les coffres remplis d'argent et tu donnes la somme minimale. Mais c'est insultant. Et donc, lui, on va l'obliger à suivre Beth Shammah. Et alors, tant pis pour vous, là, je vais terminer sur un peu de poésie. Après l'œuf dur, la tarte à la crème. Un peu de poésie. Alors, c'est un poète italien que je connais depuis longtemps, un mois à peu près. Poète contemporain qui s'appelle Franco Arminio et qui, dans un recueil de poésie, dit « Dobbiamo spalancare gli occhi ». Il nous faut ouvrir grand les yeux. Il nous faut ouvrir grand les yeux. Sentire che ognuno di noi, pour bien comprendre que chacun d'entre nous est ferita e guaritore, est à la fois la blessure et le remède. Et mi curo di me, guardando fuori, et je me soigne d'être moi en regardant vers l'extérieur. Ben, c'est ce que je nous souhaite. Pour sortir de nos cris. Et grazie mille.
Et un grand merci, Gérard. Et je vais me permettre, Gérard, tout de suite, de te poser une première question, alors que normalement, quand même, j'aurais pu attendre. J'ai pensé, pendant que tu parlais, à l'étoile de David. Parce que dans cette étoile de David, on a un triangle vers le haut, on a un triangle vers le bas, ils sont entrecroisés, donc il y a à la fois du 2 parce qu'il y a deux triangles, mais il va y avoir encore deux fois du 3, du 2. Alors, est-ce que l'étoile de David... Et ce serait presque une image qui pourrait expliquer ce que tu disais.
Alors,
j'ai craqué.
Tu ne crois pas si bien dire. En fait, j'avais une diapositive prête là-dessus. Et comme je n'ai pas pu la projeter, je n'en ai pas parlé. Mais effectivement, on a deux passages du traité Avot. J'ai parlé du traité Avot tout à l'heure en citant Rabbi Tarfon qui disait « Tu n'es pas obligé de mener ta tâche à bien, mais tu n'es pas libre de t'y soustraire. » Dans ce même traité Avot, on trouve deux Mishnayot, deux enseignements. C'est aussi quelque chose qu'on chante quand on sort la Torah le Shabbat matin. « Ashlosha devarim haolam omed » Le monde repose sur trois choses. Mais vous avez deux enseignements qui disent « Le monde repose sur trois choses. » Alors, il y en a un qui dit « À la Torah, bala avoda, bala gemilut chassadim » Donc sur la Torah, sur les sacrifices et sur la pure générosité. Et l'autre qui dit à la din, à la emet, à la shalom, sur la vérité, sur la justice et sur la paix. Et effectivement, c'est le traité avant nous propose deux façons de trianguler. Et si on les entrecroise, évidemment, ça fait un Magen David, ça fait alors une étoile, ou pour le dire littéralement, Magen David, ça veut dire en fait le bouclier de David. Donc c'est un remède. C'est un remède. C'est une protection contre la crise, la double triangulation. Absolument.
Bien. Alors on va oser poser des questions malgré tout.
Mais moi,
merci.
Merci pour cet exposé, comme d'habitude très brillant. En t'écoutant, je me suis dit que tu étais un peu reflet finalement de la pensée monothéiste. En ce que tu dis, toute chose finalement comporte un aspect, un autre aspect, et en fait, les deux aspects, c'est aussi l'unité. C'est-à-dire qu'il n'y a de jour que parce qu'il y a la nuit, il n'y a la nuit que parce qu'il y a de jour, la nuit annonce le jour annonce la nuit, il n'y a de dur que parce qu'il y a du blanc et du jaune, et l'unité de l'œuf, finalement, c'est une forme de variété. Il y a plusieurs compositions, voilà. Et je crois que c'est vraiment, enfin pour moi, je l'ai entendu comme ça, c'est une pensée profondément monothéiste.
Oui, absolument. Je reprendrai ça complètement à mon compte, Monique. Ouais. C'est-à-dire que d'ailleurs, on a une formule dans les prières du matin, Kone Hakol. C'est compliqué à comprendre. Alors, on va se lancer dans la question de la traduction de ce verbe, mais en gros, dans les bénédictions du matin, bon, Dieu a créé la lumière, il a tout créé. Bon, il a tout créé, c'est une façon de poliment de dire qu'il a créé le bien et le mal. Espèce d'euphémisme, parce qu'on n'ose pas trop le dire quand même. Voilà. Oui, on n'est pas dans une vision dualiste.
Voilà.
Effectivement,
mais on est
dans une vision effectivement monothéiste, effectivement. Et ce qui veut dire qu'il faut accepter, alors moi je le dirais comme ça, mais c'est un petit paradoxe, mais le fait que ce soit monothéiste, ça veut dire que qu'on n'a pas une perspective monologique, mais au contraire, que toute chose est hétérogène.
Exactement.
Et le principe fondamental du monde, c'est l'hétérogénéité.
C'est la double face de Janus, tout le temps.
Oui. Il y a une chose, son contraire. Il n'y a personne qui... Bon, ce serait notre développement, mais... Et ça, le grand penseur de ça, c'est quand même le Maharal de Prague, qui aura, à travers son concept de Emsa, de milieu, qui aura pensé au bout cette idée-là, quoi, que chaque chose peut se muer en son contraire, etc., effectivement. Absolument, absolument. C'est ce qui est intérieur, j'ai été interpellé par ta formule. Pur reflet du monothéisme, justement, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas de pureté. Quoi.
Oui, enfin, quand je dis pur,
ça
me semble fidèle, en tout cas, ça me semble tout à fait fidèle.
La règle absolue, c'est effectivement l'impureté. Quoi.
Oui.
Sans connotation négative. Oui. C'est l'hétérogénéité, c'est un phénomène... voilà. Nous vivons dans le monde de l'hétérogène, absolument. Ok. Ça coupe court au fantasme de pureté, quoi. Voilà.
Mais alors, l'hétérogénéité qui fait partie d'un même ensemble, en réalité.
Oui. Alors, que penses-tu de ce dicton ? C'est un mal pour un bien.
Alors, ça, c'est autre chose.
Ah. Oui.
Ça dépend. Alors, ça, et après, il me faudra un contexte. Ça dépend comment on le dit, ça dépend aussi de qui le dit, pourquoi faire, pour prouver quoi, enfin voilà, c'est comme ça, in abstracto, j'en pense rien, quoi. Ça peut être parfaitement acceptable, comme ça peut être absolument abominable, voilà, ou alors la réponse de Rabbi Yochanan, c'est une forme de réponse déjà, quoi. Moi ces souffrances-là, je ne les veux pas, quoi. Donc non, il y a parfois des choses qui n'ont pas de... voilà.
Bon, j'y connais pas grand chose, mais est-ce qu'on peut dire que cette histoire de triangulation, tous les juifs la pratiquent ? Enfin, tous les juifs, quoi. Enfin, ceux qui sont comme vous, là, qui parlaient. Je vous dirai après pourquoi je pense à ça.
Alors, Alors, enfin, je pense qu'effectivement, la réponse dans la question, c'est-à-dire tous non.
C'est d'habitude, Jules.
Bah, pas forcément, non. Non. Je déplore que ce soit pas le cas. Mais, mais malheureusement, non.
Je disais ça parce que, en fait, je repensais à des textes des évangiles avec Jésus de Nazareth. Et je me disais qu'il fait tout le temps ça, quoi. Vous lui posez une question, pour le piéger, ou pas pour le piéger, c'est pas la question, et il va pas vous dire oui ou non. Il va vous dire une troisième chose. Donc c'est pour ça que je vous demandais, est-ce que c'est juif, ça ?
Mais là, oui, mais alors, je vais, enfin, si je suis... si je fais preuve d'un minimum de cohérence, je vais vous dire que... il n'y a rien de purement juif, quoi. Puisqu'il n'y a pas de pureté, donc... je ne peux pas dire que ça, c'est juif, ça, ce serait 100% juif, ça n'existe pas, le 100% juif, ça n'existe pas. Tout comme le... Enfin, je dirais, si je ne peux pas...
C'est le phénomène de l'étude.
Quand même,
oui, enfin, ça dépend de quelle étude, quoi. Parce qu'on peut, on peut étudier et être complètement binaire et... Ça dépend de quelle étude. Oui, mais la Torah peut être aussi mal étudiée et mal... voilà, c'est un désir de vie ou de mort, hein. Donc, tout se rend... Enfin, voilà, je ne peux pas... Je n'ai pas de généralité, non.
Enfin, ça fait réfléchir ce que vous dites.
J'espère, mais... C'est... Alors, ça peut être aussi tout à fait, alors, pour répondre comme ça, dans ces termes-là, ça peut être aussi tout à fait non-juif. Alors, tout dépend de ce qu'on en fait, mais si vous prenez une certaine compréhension de la dialectique hegelienne, par exemple, thèse, antithèse, synthèse, bon... Voilà, sauf que il faut s'entendre sur ce que veut dire synthèse, et c'est là où les ennuis commencent, hein, parce que souvent, thèse, antithèse, synthèse, ça devient thèse, antithèse, foutaise. Mais si vous voulez, après il faut revenir à l'allemand, le Aufhebung, qu'est-ce que c'est que Aufhebung chez Hegel, voilà. Mais si on ne simplifie pas, si on ne caricature pas l'idée de synthèse, alors ok.
Moi je pensais à Rabbi Jacob, le chat du rabbin, qui dit vous. Thèse, antithèse, synthèse, et nous, c'est plutôt thèse, antithèse, antithèse et antithèse. Voilà. Et je voulais revenir sur un truc qui m'a beaucoup intéressé dans ce que tu disais, c'est ces deux rabbis, l'un qui va visiter l'autre malade, et puis l'autre qui tombe malade à son tour. Ça me rappelle beaucoup des démarches aussi de Jésus dans l'Évangile, notamment à un moment où il s'approche d'une piscine où il y a des gens qui vont plonger dans l'eau toutes les 20 minutes quand il est en ébullition, ils sortent guéris. Et il y a un gars qui est là depuis 15 ans et il est tellement paralysé qu'il n'a pas le temps de... Et Jésus lui demande, mais qu'est-ce qui t'arrive ? C'est une question du même genre que ce que tu décrivais, c'est-à-dire au fond, on pourrait, il se paye sa tête. Et en fait, effectivement, le gars, finalement, se relève dans le verset d'après, quoi. Et il dit juste, lève-toi et marche, c'est-à-dire, occupe-toi de toi.
C'est, voilà, si je le disais de manière psychanalytique, c'est pour revenir à l'italien, d'ailleurs, parce qu'il y a un séminaire de Lacan, ça apparaît à deux endroits, mais où Lacan dit que, voilà, la question fondamentale, c'est d'interroger mais quel est son désir, quoi. C'est-à-dire, que vous qu'est-ce que tu veux ? Ça, quand Rabbi Chia demande à Rabbi Yochanan, est-ce que tes souffrances te sont chères ? C'est ça, mais que vois-tu ? Ma'atarotse, mais qu'est-ce que tu veux, quoi ? Mais quel est ton désir ? C'est ça. Ton désir, c'est quoi ? C'est d'être malade ou c'est de guérir ? Et l'autre, il se dit, mais ouais, je peux guérir, en fait. Allez, donne-moi ta main. Ça y est. Parce qu'il a connu son désir. Il a accédé à son désir. Voilà, il ne cède plus sur son désir et donc il est guéri.
C'est pour ça que moi j'ai envie de dire, on ne s'interroge pas pour savoir si c'est purement juif comme manière de parler. C'est juste une manière de parler qu'on rencontre dans la tradition juive et quand on rencontre aussi
on peut rencontrer ailleurs.
La façon de faire de Jésus. Quoi.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y aurait d'un côté, c'est un peu ce que dit... C'est notre philosophe contemporain, que j'aime beaucoup, qui est décédé il y a quelques années, qui était Bernard Stiegler. Notre iconoclaste, il avait appris la philosophie en prison, il avait avait fait quelques bêtises. Il avait été condamné à plusieurs années de prison. Et en prison, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je veux là? Qu'est-ce que je fais? Il a appris à philosopher. Et il a écrit un certain nombre d'ouvrages dans lesquels il s'intéresse énormément à la question de... C'est pour ça que j'ai fini, en fait, c'est un clin d'œil à Bernard Stiver, finir par cette citation de Franco Almi, « Dobbiamo spalancare gli occhi ». Il faut ouvrir et tenir les yeux grands ouverts, parce que quelque chose qui intéressait beaucoup Bernard Stiegler, c'était l'attention, quoi. L'apostrophe attention. Il faut être vigilant, quoi. Il faut bien regarder une chose. Il faut être là, il faut regarder, quoi. Pas glisser sur les gens et les choses. Et Bernard Stiegler, un des derniers ouvrages qu'il a publié avant sa mort, ça s'intitulait « Qu'appelle-t-on penser ?» Penser, P-A-N-S-E. Ça, c'était un coup de pied à Heidegger qui... « Qu'appelle-t-on penser ?» Ça, c'était pas au jeu de Denken. Penser, P-E-N-S-E. Petit coup de pied à Heidegger qui le mérite bien. Et Stiegler avait cette formule penser, c'est tenter d'échapper à la bêtise, quoi. Voilà. Et c'est ça, voilà. Qu'est-ce que c'est que la triangulation pour moi? Ben, la triangulation, c'est une tentative d'échapper à la bêtise, quoi. Qui court toujours plus vite que nous, hein, qui nous rattrape trop souvent, mais bon, ça n'empêche pas d'essayer, comme disait Rabbi Tarfon. Ça n'empêche pas d'essayer. Voilà, pour moi, la triangulation, c'est, alors s'il y avait des étudiants qui seraient en train de rire, hein, parce que je mets des triangles, je fais des triangles partout dans mes cours, mais voilà. Et c'est ça, trianguler, c'est tenter d'échapper à la bêtise. Et ça, c'est quand même un sacré programme. Quand même un sacré programme.
Qu'est-ce que tu penserais de l'idée que la triangulation est une sorte d'enfantement? Il y a le père, la mère, et puis l'enfant.
Oui, enfin, disons que, si c'est l'enfantement, il faudrait qu'il soit trois à enfanter l'enfant, quoi. Bon, ils sont trois, en fait. Hein. Le père.
1 qui fait 3, quoi.
Oui, d'accord. La figure de. Oui. Ouais. Disons que. On peut dire que. Échappe. Ok, je vais dire comme ça. Je dirais que. La tâche de l'enfant, c'est d'échapper à la bêtise et d'échapper aux deux, quoi. C'est-à-dire au père et à la mère.
C'est vrai.
On ne peut pas vivre sans échapper à la bêtise. La bêtise, ben, c'est le parent, quoi.
C'est pour ça que l'analyse transactionnelle existe. C'est exactement la transition.
Je vais le dire comme ça. Je vais le dire comme ça. Parce qu'on est pris entre deux désirs et il faut savoir quel est son désir à soi.
Exactement.
Quand on accède à son désir à soi, on échappe au désir des deux autres, là, qui sera tout permis. Je le dirais comme ça.
Oui, du coup, c'est... Oui.
Je le dirais comme ça, ouais.
Du coup, l'enfant est l'aboutissement de la triangulation.
Ouais. Non, il est le déchet du binaire. Mais j'utilise déchet au sens freudien. Le rejet, ce que Freud appelle le rejet. Enfin bon, bref. Le rejeton, quoi.
C'est pas le déchet, quand même.
Merde, monsieur qui
veut parler. Ça dépend. Enfin bon, bref.
Ça dépend qui est derrière.
Bref.
Oui, en vous écoutant tout à l'heure et en disant à l'enfant, il faut qu'il échappe à la bêtise, je repense à ce que vous évoquiez et aux images que ça suscitait. Dans l'actualité, on a le débat qui va renaître sur la fin de vie. Sujet avec, évidemment, thèse, antithèse. Et... malheureusement, on s'oriente vers une synthèse qui va être la loi. est-ce que la loi, c'est la bêtise aussi?
Ah, mais personne n'échappe à la bêtise. La loi peut être bête à manger du foin, hein. Mais la loi peut être très réussie, la loi peut être bête. Enfin, tous les cas de figure sont possibles.
Est-ce qu'il faut légiférer sur le sujet, en fait?
Ah, mais ça, c'est. Alors, peut-on se passer de loi? Enfin, voilà, c'est un vaste sujet, mais je répondrai en décalant.
Sur ce sujet.
Oui, mais alors je répondrai un petit peu en décalant, je répondrai de manière lacanienne. Je répondrai de manière lacanienne en disant c'est un sujet grave, hein, la fin de vie, etc., etc. Enfin, la vraie question, parce que c'est pas si facile. Si vous voulez, poser cette question comme ça, c'est faire l'économie d'une question qui me semble beaucoup plus importante. C'est comment reconnaît-on les vivants et les morts? C'est-à-dire que moi qui vous parle, suis-je vivant ou suis-je mort? Qui sont les morts et qui sont les vivants? Il y a des morts qui sont beaucoup plus vivants que certains vivants qui sont morts. Je vous donne un exemple. Et ça n'est pas un hasard si j'ai parlé de Raphaël Drahi, dont je vais quand même dire Zichrono Livracha, que sa mémoire soit une bénédiction. C'est mon maître. Qu'est-ce que c'est qu'un maître? Je me suis longtemps posé la question, et voilà la réponse à laquelle je suis abouti. Un maître, vous savez, on dit parfois, je dis ça sans esprit polémique, voilà. Parfois, l'amour est plus fort que la mort. Je crois pas. Je ne sais pas comment. L'amour est plus fort que la mort. Ah. Non. Qu'est-ce que c'est qu'un maître? C'est quelqu'un qui, par-delà la mort, est capable de transmettre. Raphaël Drahi est-il mort? Oui et non. Il est mort, mais il est toujours capable de me transmettre des choses, de me faire grandir, de me faire vivre. Et c'est formidable. Ça n'empêche pas qu'il est mort, mais sa mort n'empêche pas qu'il soit vivant. Or, il y a des gens qui se prétendent vivants, qui sont complètement morts. Je ne citerai aucun nom, mais il y a des gens qui ne font pas vivre, et dont on ne peut même pas dire s'ils sont vivants ou pas. Alors, vous voyez, c'est pour moi une façon de compliquer cette question. Est-ce que la mort, est-ce que légiférer sur l'euthanasie, sur la fin de vie, la mort, etc., c'est un sujet très grave. Mais est-ce que c'est si simple de savoir ce qu'est la vie, ce qu'est la mort? Où commence la vie, où commence la mort? Où commence la vie, où s'arrête la vie? Je crois que c'est pas si simple. Et c'est une façon d'échapper aux deux, quoi.
Voilà. Est-ce que c'est pas juste d'être invisible? D'être mort?
Oui, enfin, oui. L'invisibilité, c'est une façon, oui. On est simplement invisible. Mais on n'est pas sans efficacité. On n'est pas, oui.
On n'est pas disparu,
non.
Spirituellement, enfin.
Non, je déteste cette expression. Il y a énormément d'expressions que je déteste. Il y a énormément de choses qui m'agacent profondément. Une des choses qui m'horripile absolument, alors, c'est... Pour autant, c'est parfois certains euphémismes qu'on utilise autour des morts, etc., le disparu. Quoi. Mais il n'a pas disparu. On sait très bien où il est.
Bah, il est
y a une tombe pour localiser. On sait très bien où il est, le disparu. Il n'a pas disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a disparu de la circulation? Oh, tiens, il est où? C'est pas mon téléphone portable que j'ai égaré, quoi. Qu'est-ce que c'est, ces façons de parler, là? Non, il n'a pas disparu. Il y a, en plus, si c'est un maître, il n'a pas disparu. Je sais très bien où il est. Je sais très bien, oui. Il peut s'incarner dans des livres, dans des paroles, dans des... Bien sûr. Et donc, il est, de ce point de vue-là, vivant.
Bon, ben, je vais continuer sur cette notion de disparu. comme aujourd'hui, il y a une énorme vague d'incinération, pratiquement maintenant, sur 3 citoyens, il y en a 2 qui se font incinérer. Et alors là, pour l'incinération, qu'est-ce que tu peux répondre?
C'est-à-dire
les,
quelle est la question?
Voilà, je vais mieux la reformuler. Au moment de mourir, à sa mort, certains choisissent le tombeau, la tombe, ou d'être incinérés, et parfois l'urne, on va l'ouvrir, et certains choisissent que les cendres soient jetées au lac d'Annecy, ou les cendres soient éparpillées dans telle montagne de Haute-Savoie, sur tel versant, sur tel sentier. Est-ce que là, c'est une disparition, l'éparpillement de ces cendres à la montagne?
Je veux dire une horreur, mais enfin, je veux dire, imaginons que les cendres, enfin, que Raphaël Drahi, dont j'ai parlé, il ait été incinéré, que ses cendres aient été dispersées. Qu'est-ce que ça change pour moi au fait qu'il puisse encore me transmettre quelque chose, quoi? Qu'est-ce que ça change? À part à rien. C'est ce que je veux dire. Voilà.
Quelqu'un qui disparaît, c'est quelqu'un qu'on ne nomme plus.
Micro.
Or, les morts, on continue à... Pardon.
Une personne qui disparaît, c'est une personne qu'on ne nomme plus, dont le nom est effacé, mais une personne qui est morte, elle continue à... Elle a porté un nom, qu'on se remémore, que l'on dit, on la présente avec ce nom. Donc, elle conserve une identité et une mémoire... Elle a été, elle est encore, parce qu'elle a la trace qu'elle a laissée, l'empreinte qu'elle a laissée. Donc effectivement, si on dit, enfin, chez les Juifs peut-être, qu'il y a une vie par-delà la mort, j'en sais rien, ça, on n'en sait absolument rien. Mais enfin, pour nous, en tout cas, il y a une vie qui se prolonge par le souvenir.
Oui.
Voilà, une vie qui se prolonge par le souvenir.
Formidable expression. Il y a une vie qui se prolonge.
Voilà.
Absolument.
Par le souvenir, parce qu'il a la personne à laisser.
Par différents canaux.
Oui. En ce qui concerne les cendres, je crois qu'il n'y a pas tant de... Pas, si les gens sont incinérés, c'est pas toujours, ça ne résulte pas toujours de leur volonté, mais c'est souvent les municipalités qui disent qu'il n'y a plus de place. Donc il faut laisser de la place et il faut incinérer, parce que les cendres prennent moins de place qu'un cercueil, malheureusement... Voilà, c'est ça.
Peut-être la question, Gérard, qui peut être intéressante dans notre tradition par rapport justement à l'incinération, entre ce qui est autorisé, ce qui est interdit, ce qui peut se faire, si on peut mettre les cendres dans la terre, selon nos traditions et selon nos synagogues. Et en même temps, le souvenir, nous, on a ce liscor, ce souvenir régulier où, à la synagogue, il y a une prière qui est faite, ou chez soi, d'ailleurs, d'allumer une bougie. Et je pense que c'est pour d'autres, vous aussi, certainement, dans le monde chrétien. Et c'est une façon, toujours, de se souvenir des êtres chers, de ceux qu'on a aimés, et qui restent vivants, obligatoirement, puisque nos pensées sont vers ces personnes. Alors là, je suis à deux choses différentes, mais dis-nous, toi, ce que tu as lu, ce que nous savons tous, nous, en tant que juifs, de l'interdit, de l'incinération, et pourtant.
Alors, ça, c'est quand même vaste, c'est extrêmement complexe.
Ouais. Oui, alors peut-être que c'est trop.
Enfin, je réponds de manière anecdotique, c'est quelque chose que j'ai vu dans la presse il y a 2 jours, hein, donc c'est pour ça que voilà, je commence par là. À Erfurt, en Allemagne, la municipalité a engagé des travaux pour la construction d'un parking souterrain. À l'occasion du creusement des fondations, ils ont découvert un cimetière juif. Travaux s'arrêtent, on en réfère au grand rabbin, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à des décisionnaires en Israël. Et finalement, y a eu un cas où on a retrouvé... Bon, l'idée de base, c'est de ne pas troubler le repos des gens qui ont été enterrés. Quoi. Et bon, le cimetière est extrêmement ancien, donc on a retrouvé quelques restes humains, mais très, très peu, très ténus. On a retrouvé quelques dents. Et il a été... Bon, le décisionnaire qui a rendu sa décision a dit les dents... C'est une partie du corps qu'on peut estimer extérieure. Ce n'est pas un des os du corps humain. Donc, il est permis de les déplacer. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. Et vous voyez, on est toujours dans la même problématique. Qu'est-ce que c'est qu'être vivant? Qu'est-ce que c'est qu'être mort? Qu'est-ce que c'est que l'intérieur, qu'est-ce que c'est que l'extérieur?
Ah, oui.
Les dents sont dans la bouche, mais est-ce que cet intérieur buccal n'est pas une extériorité par rapport à une autre intériorité qui serait le etzem, qui serait l'os, etc. Enfin voilà. Et donc, y a-t-il une réponse simple? Non, la réponse ne viendra que par le dépassement du te. Ici, du dépassement de l'opposition binaire simpliste entre l'intérieur et l'extérieur.
La tradition dit qu'on n'a pas le droit de se faire incinérer. Oui, mais voilà, non, ce qui est dit classiquement. Mais on peut se faire, oui, mais... d'autres disent, on peut être incinéré, mais la condition, c'est... que les cendres soient mises en terre. Donc voilà une triangulation. Oui, incinéré, pas incinéré, et possibilité d'incinérer pour mettre en terre. Parce qu'en fait, c'est l'histoire du corps.
De ne pas attenter. Alors, une des idées, mais qui n'est pas la seule, il y a plusieurs paramètres. Une des idées, c'est de ne pas attenter à l'intégrité du corps. Alors, l'intégrité, c'est-à-dire aussi l'intégralité du corps. Voilà, parce que l'intégrité, ça peut être une notion extrêmement abstraite. Qu'est-ce qu'on entend par intégrité? Bon, alors, ça peut être l'intégralité, donc il ne faut pas qu'il manque un des os. Voilà. Après, si la condition, effectivement, si un des paramètres clés, c'est l'enterrement, comme tu l'as dit, rien n'empêche d'enterrer l'urne. Quelqu'un, elle est dans la terre, elle est littéralement enterrée. Donc. Bon, quel serait le problème? La condition après de ne pas troubler le repos. Voilà. Après, l'autre question, qu'on a, c'est finalement, d'une certaine manière, c'est la question qu'on a évoquée tout à l'heure, mais c'est la question aussi qui préside à la logique du Kaddish. Quand on récite le Kaddish pour un défunt, récite-t-on le Kaddish pour le défunt ou pour les survivants? C'est-à-dire que donc l'enterrement se fait au bénéfice du défunt ou au bénéfice des survivants. Là aussi, c'est quelque chose de relationnel. Là encore, c'est pas l'un et l'autre, c'est quelle relation est tissée entre les deux, etc. C'est quand même la question du lien, la question du rapport entre les vivants et les morts. Et voilà, on se retrouve encore dans la question du rapport et donc du dépassement du deux. Quoi. C'est l'entre-deux là, qui est important.
Rajouter qu'il y avait deux raisons aussi qui faisaient que préférer l'enterrement à l'incinération, c'est qu'on dit classiquement que la résurrection des morts se fait à partir de l'atlas, de la tête. Donc si on incinère, on n'a plus cette possibilité de résurrection.
Oui.
Le deuxième élément, c'est que alors ça c'est plus sur le plan psychologique, ça rappelle la Shoah, l'incinération.
Oui, mais ça c'est la question, enfin, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est la question du tatouage, enfin voilà, quand on dit c'est interdit parce que, mais non, enfin, on peut comprendre cette raison, mais ça n'est pas une raison halakhique, c'est une raison juridique, ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas important, hein. Il faut juste distinguer les plans et les registres, il faut savoir de quoi on parle, quand on parle de quelque chose, il faut savoir de quoi on parle, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je suis en train de dire. Après, bon, alors la question, le, oui, alors le problème, voilà, de la résurrection, etc., mais le problème, c'est quel est le statut de cet enseignement. C'est un midrash, c'est symbolique, parce qu'il y a d'autres textes du Talmud que moi je pourrais avancer, où on se demande quelle est la partie du corps humain qui vient condenser l'idée, la vie, quoi. Alors certains vont dire, c'est le nez, c'est les narines, c'est là où Dieu a insufflé le souffle de vie. D'autres vont dire, c'est le nombril, etc. Enfin, c'est quoi ouais, donc, il y a pas. On ne peut pas faire valoir un texte qui trancherait, quoi. Ça n'existe pas.
En tout cas, il y a une chose qui est sûre.
Ah, micro.
C'est que il y a une chose qui est sûre, c'est que donc, dans le cimetière donc, qui a été retrouvé, on n'a pas retrouvé d'atlas, mais une dent.
Il y a une étude qui vient d'être publiée cette semaine sur l'ADN de la population juive d'un très vieux cimetière à Erfurt.
Ben, voilà,
et pour pouvoir faire des analyses d'ADN, il fallait obtenir l'autorisation des rabbins. Et comme il reste des dents, le rabbin a donné l'autorisation. Donc ils ont pu analyser l'ADN des dents et montrer qu'il y avait deux populations juives, puisque c'est un cimetière juif très ancien, venant soit d'Europe de l'Est, soit plutôt du Sud et de l'Italie. Donc les dents sont extérieures au camp.
Voilà. Et là, c'est... Bon, ce n'est pas enregistré, donc je peux parler librement. Ça, c'est quelque chose qui me navre à un point que vous n'imaginez pas. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que l'ADN pourrait dire qui est juif et qui ne l'est pas.
Non, absolument pas. Mais de dire ça vient.
Ah si, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est très exactement ce qu'on est en train de dire. Je vais prélever un peu une séquence d'ADN d'une dent et je vais pouvoir savoir si ces gens étaient juifs ou pas.
Mais il y a même un...
Ganz meschugel. Mais c'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. Et c'est des gens, je ne m'étonne pas qu'on soit allé les chercher en Israël. Hein, mais c'est peut-être d'excellents scientifiques, mais au plan halakhique, au plan que je défends, ce sont des rigolos. Enfin, ce serait des rigolos si c'était risible. Mais malheureusement, ça ne l'est pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est une position qui est, au sens psychanalytique du terme, délirante.
Mais il y a sur internet un site qui s'appelle My Heritage.
Oh, mais bien sûr.
Voilà, où on envoie un petit écouvillon avec sa salive.
Oui.
Et puis on sait
si on est juif ou pas.
Et puis on... Après, on vous dit d'où vous venez. Alors, moi, j'ai comme ça.
Dieu est grand et l'homme est tout petit.
Voilà. Et j'ai des amis qui cherchent leurs origines, d'où ils viennent. Et on a trouvé, alors, pour une de mes amies. Je ne sais plus, 10% de Mycène, la Grèce. À un moment, donc, les Grecs sont allés, enfin, la Palestine de l'époque. On lui a trouvé, je ne sais plus, 80% de Palestine, 10% de Berbères, et les autres 10% d'Italie. Voilà. Donc, elle était contente parce qu'elle avait l'impression d'avoir retrouvé son passé, sa mémoire. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a un ADN...
De la bêtise, oui.
De la bêtise, oui, ça, certainement. Certainement, mais... Bon, qu'est-ce qu'être juif? Bon, c'est voilà, ça ouvre sur bien d'autres questions.
Micro.
On a enfin un petit peu d'animation.
Dans le cas d'espèce qui a été mentionné, enfin, c'est une question naïve, mais comment pouvait-on savoir, on retrouve des restes humains très anciens? Comment peut-on savoir qu'il s'agit d'un cimetière juif? Donc je pompe.
Non, mais là, ils ont dû retrouver des. Je suppose des pierres. Il y avait des traces lapidaires. Enfin, voilà, ça, je pense qu'archéologiquement, il n'y avait pas de doute.
Des lettres hébraïques, peut-être?
Oui, enfin, voilà. Bon, après. Oui.
La partie archéologique.
Oui, c'était. Oui. Mais si vous voulez, ça me. Enfin, voilà.
C'est une époque particulière où les cimetières juifs ont été créés,
Parce qu'autrefois, dans les années 1000, à peu près, je crois, si je ne suis pas très précise, excusez-moi.
Je suis pas historienne.
Mais pas historienne du tout. Il est vrai qu'on enterrait les gens, les gens étaient tous enterrés ensemble, juifs ou pas juifs. Seulement, il y avait. Certains savaient que c'était des juifs qui étaient enterrés, donc il y a eu des exactions qui étaient faites, et il a été décidé de faire des carrés. C'est-à-dire des...
Moi, j'aurais préféré des triangles juifs.
Ben voilà, et c'est des carrés qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui encore des carrés juifs. Il y en a Annecy, il y en a Annecy le Vieux, où effectivement les personnes juives sont enterrées. Mais comme disait Rabbi François, notre mon rabbin, il disait la terre est à tout le monde et elle est surtout à Dieu. Donc de toute façon, on pourrait être enterré. Où l'on veut.
Mais en France, ça ne pose aucun problème. Oui, parce que et en la République France, est laïque et la voilà, terre est laïque, elle est neutre.
Exactement.
Aucun problème.
La terre est
aucun.
Laïque.
La terre n'a pas des pas consacrés religieusement en France. Aller, ça ne pose aucun problème.
Mais il y a le problème des bénédictions. Après, il y a tout un problème qui est tout autre.
Pas de problème.
Mais, voilà.
On parle mal des choses et on crée des faux problèmes.
On se crée des faux problèmes, exactement. Et ça, c'est fort dommage. Et oui, c'est sûr. Donc,
question ne se pose même pas. Alors, j'en profite, ouais, parce que c'est des choses qui. Des années. Parce que parfois on dit, vous dans le judaïsme, c'est formidable, vous posez plein de questions, etc. Non, non. Il peut y avoir une idolâtrie de la réponse, il peut y avoir une idolâtrie de la question. C'est pas parce qu'on pose une question qu'on est intelligent. Il y a des questions complètement connes. Et, par exemple, est-ce que c'est un verre d'eau? Ça, c'est complètement débile. C'est pas une question, c'est juste débile. Voilà. Donc, il y a des questions qui sont très intelligentes, il y a des réponses qui sont très intelligentes, il y a des questions qui sont complètement connes, et il y a des réponses qui sont complètement connes. Pas d'idolâtrie, il n'y a pas de 100%, c'est l'œuvre dure. Hein. Il y a des voilà, c'est, une question n'est pas par essence bonne, ça peut être un élixir de vie, ça peut être un élixir de mort, une question. C'est vrai pour tout.
Je suis...
Comment ?
Tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, disait mon père.
Tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, disait mon père avant de parler.
Je parle trop vite. J'ai pas le temps. Pas le temps à perdre.
Tous les pères sont semblables.
Mais ma mère est comme la mère de Daniel Balavoine, elle trouve que je dis beaucoup trop de gros mots. Surtout en public.
On va te remercier.
Ben c'est moi parce que j'ai pris un grand plaisir.